parler ce matin de la relation avec Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on développe une relation avec quelqu'un ? Comment on développe une relation avec quelqu'un ?
Entretenir.
C'est-à-dire ? Oui. En lui parlant.
Ben...
S'entretenant avec lui.
Voilà.
Oui, tout à fait. Absolument. Et pour nous, chrétiens avec Dieu, ça s'appelle ? Ça s'appelle la prière. Nous pensons trop facilement, trop vite que la prière, c'est demander des choses à Dieu. Et beaucoup, sinon la grande majorité de nos prières sont des demandes. Alors c'est bien qu'on demande des choses à Dieu, heureusement. Nous sommes en besoin par rapport à Dieu. Mais ça ne se limite pas à ça. Si notre prière ne construit pas notre relation avec, ne construit pas une relation à Dieu au fil du temps, comme le fait de se parler construit nos relations avec notre conjoint, nos enfants, et puis nos amis, et tout. Si ça ne se passe pas comme ça avec Dieu, c'est dommage. Alors, nous avons un cadeau que Jésus nous a fait, parce qu'il nous a dit comment prier. Il nous a dit comment prier. Je lis dans Matthieu, au chapitre 6, sur verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour saint, que ton règne vienne, que ta volonté advienne, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. » C'est la nouvelle traduction de la Nouvelle Bible Seconde. Hein. Ce n'est pas la traduction liturgique dont on a l'habitude. Le texte de ce matin est sans doute le plus connu de tout l'Évangile. Parce que, on ne sait pas encore pour combien de temps, mais des générations ont appris à prier ce texte. Il couronne le plus important enseignement de Jésus sur la prière. En effet, au chapitre 6, Jésus souligne aussi deux manières de prier qui sont mauvaises. D'abord, une attitude de prière où on n'est pas vraiment tourné vers Dieu, parce qu'on prie en étant préoccupé du regard des autres. Et Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Oui, ils ont leur récompense, puisqu'ils ont ce qu'ils ont voulu. Ils veulent qu'on les voit, on les voit. Le problème, c'est que Dieu, il n'a pas grand-chose à faire là-dedans, en fait. Donc, ils ont ce qu'ils veulent. Et Jésus dit, mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Une relation profonde à avoir avec l'intimité, avec ce qu'il y a au fond de nous. Et ça, on ne peut pas le faire devant tout le monde. On a besoin d'être seul avec celui avec qui on construit une relation, ou celle avec qui on construit une relation. Puis il y a une autre façon que Jésus interdit, c'est quand on cherche à gagner l'exaucement par une technique. Ici, dans le texte, c'est la multiplication des paroles, la répétition. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Une telle prière n'est pas fondée sur la confiance en Dieu, mais sur l'illusion qu'on aurait la capacité à arracher une réponse favorable à Dieu. Alors il y a un texte sur le fait de persévérer dans la prière, qu'il faut mettre en regard avec ça, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Mais ça reste une prière qui est centrée sur soi, puisque je prie pour avoir quelque chose pour moi, avant tout. Après avoir décrit ces deux impasses, Jésus apporte un enseignement positif. Après ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est pourquoi le passage que nous avons lu est introduit par cette phrase de Jésus. Voici comment vous devez prier. Alors c'est un texte sur lequel on a beaucoup écrit. On y a consacré beaucoup de livres, de piété ou d'études bibliques. Et je voudrais ce matin souligner ce que ces textes nous apprennent sur l'attitude que nous sommes invités à avoir lorsque nous prions. Et ce matin, ce sera l'attitude par rapport à Dieu. La première partie de la prière. Deuxième partie est plus par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes. Si Jésus nous enseigne cette prière, ce n'est pas pour nous donner un texte à réciter mécaniquement, mais pour nous aider à entrer en relation avec Dieu, en priant. Donc ce matin, nous restons au verset 9 à 11 Et on gardera les versets 12 à 13 pour une prochaine prédication. La première chose que Jésus enseigne, c'est d'entrer dans la prière dans une juste relation face à Dieu. Notre Père, qui est dans les cieux. Nous sommes invités à nous présenter devant Dieu comme des filles et des fils du Père Céleste. Cette phrase souligne notre identité profonde de chrétien. Nous sommes des enfants du Père Céleste. Et c'est ainsi que Jésus nous invite à entrer en communication avec lui. Comme des enfants qui s'adressent à leur Père. Mais comme des enfants adultes, hein. Pas, quand on dit enfant, il faut se méfier de comment on comprend ça. Comme des enfants adultes, pas des enfants qui tapent du pied pour avoir ce qu'ils veulent. Le Père Céleste, alors ça c'est déjà un travail, parce que quand on pense à Père, on pense facilement au Père limité et parfois décevant de notre réalité humaine. Mais c'est pas celui-là qu'on va prier, c'est le Père qui est dans les cieux. Et c'est important de ne pas se laisser parasiter par l'image qu'on a de notre propre Père quand on pense au Père Céleste. Il y a des personnes qui ont souffert de leur Père et ils ont du mal à penser que Dieu est un Père. Il y a une vingtaine d'années, j'ai assisté à une rencontre œcuménique en Belgique sur ce thème, sur le problème qu'ont certains à prier Dieu comme un Père parce qu'ils avaient trop souffert de leur propre Père. Donc c'est important de bien distinguer les deux choses. Elles ont le fait que Dieu est un Père a quelque chose à nous dire, mais il ne faut pas le confondre trop vite avec le Père que nous avons eu selon la chair. En tout cas, Dieu n'est pas un Dieu lointain, plus ou moins indifférent, ou un Dieu sévère, ou un Dieu qui nous enferme dans ses commandements, un Dieu qu'il faudrait prier avec persévérance pour enfin obtenir quelque chose de sa part. Non, c'est un Dieu Père. Et donc, même si le mot n'est pas présent dans notre texte, Matthieu 6, nous sommes invités à situer notre prière dans le cadre plus vaste d'une relation construite sur l'amour. Comme Florine a lu ce matin des textes autour de ça, donc c'était super. Et un amour confiant, confiant. Comme le soulignera Jésus lui-même dans un autre passage du Sermon sur la montagne, au chapitre 7. « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et à qui frappe on ouvrira. » Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Alors, c'est un des soucis de la prière, c'est que Dieu veut nous donner de bonnes choses. Et je ne suis pas toujours convaincu que ce que nous demandons soit forcément des bonnes choses. Ce qui nous oblige un peu à réfléchir avant de demander. En tout cas, une relation filiale d'amour et de confiance. Ça peut paraître banal, même creux, mais c'est pas si simple. C'est simple à dire au niveau des idées, ça l'est moins dans le domaine de notre être intérieur. Jésus nous parle d'une relation d'amour et de confiance, mais aimer et avoir confiance, c'est pas si simple pour nous. C'est pas si simple. Parce que il peut y avoir de l'amour et de la confiance, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a des inquiétudes, des incertitudes, parfois de la colère, par exemple la colère devant cette maladie qui n'en finit pas, avec des réceptions qui n'en finissent pas, etc. etc. D'ailleurs, tout ça. Et parfois, nous avons tendance à penser que si Dieu est notre Père Céleste et qu'il nous aime, nos vies devraient être pas si compliquées que ça. Et donc, on ne devrait pas souffrir, on ne devrait pas avoir de problème. Évidemment, c'est une confusion entre Dieu et le Père Noël, mais elle est assez traditionnelle dans notre société aujourd'hui, dans notre culture, où on se situe plutôt comme des... On a tendance à se situer comme des clients de Dieu et des clients insatisfaits, plutôt que comme des personnes qui s'ouvrent à un Dieu qui est au-delà de nos conceptions, de nos manières de voir, et qui nous invite à élargir notre horizon, à élargir notre cœur, notre vie d'une manière générale. Si on garde cette idée d'un Dieu dont nous serions des clients, même si on ne le dit pas consciemment, même si c'est pas conscient à nous, on ressent assez facilement de la déception ou de la frustration parce que les choses ne vont pas comme on voudrait. Et ça, évidemment, ça pèse sur notre prière. Et donc, quand nous commençons à prier, clarifions notre relation avec Dieu dans la réalité de nos vies. On peut faire de belles prières déconnectées de la réalité de notre vie. Quand nous prions en disant « Notre Père », nous sommes invités à poser sur la table dans la prière ce qui nous habite. Nos sentiments, nos pensées, nos joies, nos difficultés. Parce que tout cela oriente notre vision de Dieu et donc notre prière. Notre Père qui est aux cieux, nous avons besoin de développer dans le secret de notre intimité une relation de transparence à la présence de Dieu. C'est pas si simple, nous avons besoin de faire cela. Nous avons besoin de développer notre identité de fils, de fille du Père Céleste, et à partir de cette identité, de développer une relation d'enfant du Père. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comme toute relation. Toute relation ne peut s'approfondir que avec le temps, si on prend le temps, et si on construit quelque chose avec ce temps-là. Si on investit des choses, si on investit. Si on ne le fait pas, il ne développe pas grand-chose. Un exemple classique, c'est quand on travaille avec des collègues, il y a ceux avec qui on va développer une relation, on va se voir, on va manger ensemble, etc. Et quelque chose va se passer, va se construire au fil du temps, puis il y a ceux qui sont juste là, quoi. On leur dit bonjour et ça s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est assez logique, parce qu'on ne peut pas développer des relations avec tout le monde en même temps, c'est pas possible. Dieu peut, mais pas nous. Dieu peut, mais pas nous. Et donc, il nous faut du temps, il faut consacrer du temps juste à ça. Pourquoi? Une des bonnes manières de prier, c'est de dire notre Père, et puis de se taire, de juste être en sa présence, de faire silence devant lui, de s'exposer à sa présence. J'aime cette expression. La prière, c'est s'exposer à la présence de Dieu. Et une fois qu'on s'est exposé à la présence de Dieu, on peut commencer à dire des choses. Mais si on chante cette étape de se positionner devant Dieu, de faire silence devant lui, de s'exposer à sa présence, on risque après d'être simplement dans une forme de bavardage spirituel, mais pas forcément de construire une relation. Et donc, si on a du mal avec cette idée que Dieu est notre Père et qu'il nous aime, tant qu'on n'aura pas travaillé cette question-là, et ça peut prendre du temps, ça va être difficile d'aller plus loin. Vraiment. Après avoir souligné que nous prions à Dieu qui est Père et qui nous aime, Jésus nous invite à nous centrer sur lui. Jésus nous invite à nous centrer sur Dieu, sur la personne de Dieu et sur sa volonté. Et c'est tellement important, ce décentrement, que Jésus va le dire de trois manières complémentaires. Dans la Bible, il y a un truc intéressant pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a une répétition souvent. Notamment quand c'est des textes de type poétique. Ici, Jésus dit que ton nom soit reconnu pour saint, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse. Trois demandes parallèles, en grande partie, qui pointent dans la même direction et nous invitent à la même attitude, nous centrer sur Dieu. J'aime bien cette phrase, je ne sais plus où je l'ai trouvée, mais l'important, c'est pas que Dieu soit avec nous, c'est que nous soyons avec Dieu. C'est pas que Dieu se centre sur nous, c'est que nous nous centrons sur lui. Lui, il se centre sur nous, c'est pas un souci. Mais nous, nous avons du mal parfois à nous centrer sur lui. Nous centrer sur Dieu. La difficulté, c'est que pour vraiment se centrer sur quelqu'un, il faut qu'on se décentre un petit peu de nous. C'est là que c'est compliqué. Vous voyez? C'est difficile de loucher. Hein. Tu regardes à quelqu'un, c'est compliqué de regarder en même temps à soi. Et il y a un combat spirituel là-dedans, pour que ce soit une réalité, et pas simplement des mots. Parce que nous sommes tout naturellement, et heureusement, de cette manière, nous sommes préoccupés par notre propre vie, et jusqu'à un point, c'est totalement légitime, nous sommes préoccupés par notre famille, nous sommes préoccupés par toute une série de choses. Le problème, c'est quand nous sommes enfermés dans cette préoccupation, au point de ne pas pouvoir nous décentrer sur les autres et sur Dieu, nous sommes préoccupés exclusivement par notre propre existence et que nous avons du mal à faire de la place aux autres. Une des phrases que j'aime beaucoup de l'abbé Pierre, c'est « Qu'est-ce qu'une vie à ne s'occuper que de soi-même ? » Je trouvais ça assez génial comme phrase. C'est assez de son genre en plus. Mais notre culture nous pousse à ça. La culture ambiante, elle nous pousse à ça. Elle nous pousse à être les plus beaux, les plus riches, la plus belle voiture, enfin que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Le plus beau maquillage, enfin que sais-je, moi. Il y a une espèce de. Et évidemment, il y a du business autour de ça, évidemment. Hein. C'est pas complètement innocent en plus. Mais on est une culture qui nous égocentre. Plus, beaucoup plus qu'avant. Clairement, beaucoup plus qu'avant. Enfin, les plus âgés parmi nous pourront en témoigner mieux que je ne saurais le faire. Et nous risquons, quand nous sommes trop égocentrés, à voir la présence de Dieu dans nos. À chercher la présence de Dieu dans nos vies à nous. Dans nos projets, dans nos rêves, dans notre volonté. Oui. Donc à prier par rapport à ça. Alors que Jésus nous dit dans notre Père, il nous demande de nous intéresser d'abord à la personne de Dieu, d'abord à sa volonté et d'abord à son grand projet qui est l'Évangile, qui est le royaume de Dieu, pour parler comme Matthieu. Son projet de vie pour notre personne, mais aussi pour l'Église et pour le monde en général. Et donc quand nous nous décentrons pour nous centrer sur Dieu, sa volonté, la personne, son règne, ça veut dire évidemment que si nous ne sommes pas motivés et mobilisés pour contribuer à ce que cette volonté se fasse et que ce règne avance, quelque part nous nous sommes décalés dans la prière, il y a un truc qui ne colle pas bien. Encore une fois, il ne s'agit pas de s'oublier pour ne penser qu'à Dieu, de se décentrer pour se perdre, s'oublier de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de ne plus avoir de volonté personnelle ni de projet personnel. Toutes ces choses doivent cohabiter ensemble, mais avec une certaine priorité sur Dieu. Parce que c'est lui qui tient le reste, de toute manière. C'est lui qui tient le reste. C'est lui qui tient nos billes. Comme dit la fin du chapitre 6 de Matthieu, « Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en plus. » C'est comme ça que ça marche. De toute façon, c'est Dieu qui tient tout ça dans sa main. Et nous passons à côté de Dieu et de la grâce de Dieu en ne pensant qu'à nous. En tout cas, dans ce verset, c'est chercher d'abord et pas chercher seulement. Cette priorité de la volonté de Dieu a aussi caractérisé la vie et le ministère de Jésus, y compris dans les moments les plus compliqués, comme dans le jardin de Gethsémané. Jésus parvient à traverser l'angoisse de la mort, à triompher de la tentation de l'évitement de son destin, parce que son orientation est claire, ses principes de vie spirituelle sont clairs, et il l'exprime en disant, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors ça n'arrive pas tous les jours de faire des choix aussi dramatiques, mais de temps en temps ça arrive qu'il faille faire des choix entre notre volonté, ce que nous on a envie, et ce que Dieu voudrait. Ce centrage sur Dieu, auquel Jésus nous appelle, donne à notre vie spirituelle son équilibre, et nous aide à vivre une foi profonde et enracinée dans la réalité, face aux difficultés de la vie dans un monde qui reste marqué par les conséquences du mal, y compris les maladies qui sont aussi une conséquence du mal, nous aide à faire face à la pandémie qu'on vit actuellement, centrée sur Dieu et sur sa volonté. Notre monde ne s'écroule pas parce que nous sommes confinés, ou plus ou moins restreints dans nos déplacements. Par contre, si tout tourne autour de nous, ça devient beaucoup plus embêtant, je dirais. Un dernier point que j'aborderai ce matin, c'est « Donne-nous notre pain pour ce jour ». Qu'est-ce que cette demande peut nous apporter à nous qui sommes globalement pas dans le besoin? On passe, je ne sais pas si vous êtes passé devant une boulangerie en venant ici, nous oui, de la vraie. Le pain, c'est pas très compliqué. Mais Jésus veut dire plus que ça, évidemment. C'est d'abord de reconnaître, mais aussi d'assumer, c'est pas pareil, reconnaître et assumer que nous sommes dépendants de Dieu. Nous sommes dépendants de Dieu. Il nous a créés et il est notre Père, et nous sommes fondamentalement et ultimement dépendants de lui, d'autant plus que le péché est présent dans notre monde et dans notre vie. Dieu tient ma vie dans sa main. Il en est l'origine, il en est la source, il en est le gardien. Ce n'est pas moi qui ai décidé de vivre, ce n'est pas moi qui ai décidé d'avoir la personnalité que j'ai, les compétences, les capacités, les dons et les limites qui sont les miennes. Ce n'est pas moi qui ai décidé tout ça, c'est Dieu. Et je suis fondamentalement en besoin de Dieu pour ma vie physique, mais aussi ma vie dans sa globalité. Et appelé à vivre ça en tant que chrétien dans la reconnaissance. La vie, c'est quand même génial. Tout le monde souhaite la fin des restrictions parce qu'on va retrouver la vie entre « Ah, c'était quand même super, quoi !» Peut-être qu'avant, avant toute cette maladie, etc., tout le clavier était pénible et tout, mais il suffit qu'on soit limité sur quelque chose que d'un coup on découvre « Ah, c'était quand même super, quoi !» Vous voyez, si on avait ce regard un peu plus, de manière un peu plus cohérente et constante, on serait beaucoup plus dans la reconnaissance. La vie nous offre des tas de choses. Aujourd'hui, il fait chaud, c'est le jour le plus chaud depuis le début de l'année. On peut être en manche courte, on sort, on a chaud, c'est génial, quoi. La vie, c'est super dans plein de domaines. On oublie parce qu'on pense à d'autres choses, on se laisse remplir la tête par d'autres choses. Mais il faut qu'on retrouve un peu ce sens. Que la vie est géniale et de la reconnaissance parce qu'elle vient de Dieu. Mais aussi, le fait que dans notre quotidien, même si on pense qu'on est assuré par des tas de choses et qu'on vit dans un certain confort, etc., eh bien, il ne suffit pas grand-chose pour que ça tombe. J'ai fini une épidémie. D'un coup, on tombe malade, nous aussi, on se retrouve à l'hôpital avec des trucs pour nous aider à respirer, enfin des choses. On vit dans une période où on veut oublier qu'on est fragile. Alors que c'était une des conclusions de la réunion du 1er mai des anciens prédicateurs de nos églises, donc la semaine dernière, on redécouvre la fragilité humaine. Nous avons plutôt la prétention d'être autonome et d'avoir besoin de rien. Je me souviens d'une chanson des années 70 dans laquelle Yves Simon, un Lorrain par ailleurs, un Vosgien même, je ne sais pas si Yves Simon ça dit rien au plus jeune, mais dans sa chanson il y a un dialogue et dans le dialogue il y a « Qu'est-ce que c'est la puissance ?» Et la réponse c'est « Être assis au coin d'une rue et n'attendre personne. » N'attendre personne, avoir besoin de personne. C'est très moderne, cette façon de faire, de penser. Nous cherchons à vivre comme si on n'avait besoin de rien ni de personne. Alors nous avons des outils qui nous donnent l'illusion de cela. Quand Yves Simon chantait ça, on n'avait pas encore des téléphones portables où on peut avoir à peu près toute la connaissance du monde, pour peu qu'on paye des abonnements et des machins, juste sur un téléphone, quoi. Donc c'est vrai que la technique augmente sensiblement nos capacités, mais elle ne change pas grand-chose, malgré tout, à notre fragilité et à une certaine pauvreté d'être privé de la source de vie et d'être vite perdu dès que quelque chose se passe qui perturbe notre vie, comme on le voit aujourd'hui. Quand ça devient dramatique de ne pas pouvoir faire la fête les week-ends, quand ça devient impossible de vivre sans pouvoir faire toute une série de choses qu'on faisait avant facilement, il y a la fragilité. Quand nous sommes reliés au Seigneur, alors nous avons confiance que cette fragilité, nous ne la vivons pas tout seuls. Et que nos vies sont dans les mains de Dieu. Il y a à la fois la reconnaissance que tout vient de lui, comme j'ai dit au début, et en même temps, la reconnaissance de pouvoir lui faire confiance parce qu'il tient nos vies dans sa main. Et qu'on n'a pas besoin de s'angoisser tout le temps. D'ailleurs, la crainte du lendemain, ça vient juste après la prière, dans ce chapitre 6 de Matthieu. Il est temps de conclure. Nous connaissons, ce que je vous ai dit ce matin, absolument rien de neuf. Mais le vivre concrètement, dans la prière, devant Dieu, c'est une autre chose. Nous pouvons avoir un bon catéchisme, nous pouvons prier notre Père souvent, et en même temps, pas forcément développer une relation, enraciner une relation d'enfant du Père et vivre notre fragilité, pour peu qu'on accepte nous-mêmes d'être fragile, ce qui n'est pas évident, il ne suffit pas d'être chrétien pour le faire, il faut aller plus loin que ça. Ça ne va pas de soi. Nous avons besoin de construire ces choses-là, de les enraciner dans notre vie et d'apprendre à les vivre paisiblement. Dieu m'a créé pour vivre une relation avec lui de type enfant, Père Céleste. Il m'a créé pour vivre branché sur lui, en communion avec lui, et apprenant de lui ce qu'est la vie, ce qu'est la façon de vivre. Dans ce monde créé bon et marqué par le péché, j'ai d'autant plus besoin de me centrer sur Dieu et sa volonté pour y voir clair en moi-même. J'ai besoin de lever les yeux sur quelqu'un d'autre que moi-même et de trouver en sa volonté la clé de mon existence. La prière, qu'on appelle notre Père, nous introduit à une relation vraie, profonde, exigeante avec le Père Céleste. Une relation qui enracine mon existence et lui donne des ailes en même temps. Alors, voulons-nous réentendre le contenu de cette prière et le faire nôtre ? Amen.